voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Agnès Varda, disparue en mars dernier. En 2003, Antoine Guillot s'entretenait avec la réalisatrice. Ce soir, souvenir de festival.
Bonjour Agnès Varda.
Bonjour.
On vous retrouve chez vous, rue Daguerre, pour ce deuxième volet de la série « D'avoix nues » consacrée au Festival de Cannes. Une série donc qui nous emmènera dès demain et jusqu'à vendredi à Cannes même, où on abordera ensemble la 56e édition du festival. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de vos festivals.
Mais oui, j'ai beaucoup de souvenirs à Cannes parce que j'y ai amené beaucoup de films. Et Jacques aussi y a présenté des films. Donc au fond, ce festival est entré dans nos vies de façon continue, je dirais. C'est moi qui ai commencé, parce que j'avais fait toute seule en 1954 un film La Pointe Courte avec Sylvia Monfort et Philippe Noiret. Et André Bazin, qui était un critique très reconnu, très estimé, avait dit « il faut absolument le montrer à Cannes ». Où, comment, je ne sais pas, je ne savais rien. Il m'a dit « venez, je vous aiderai ». Et je suis partie avec les 7 bobines 35 mm, ficelées en 2 paquets. J'ai pris le train, je suis arrivée à la gare de Cannes. Il m'avait dit « je suis à l'hôtel suisse ». J'ai fait un premier voyage avec 4 bobines, un deuxième avec 3 bobines, entre la gare et l'hôtel suisse. Il m'a fait avoir une petite chambre à l'arrière qui ne coûtait presque rien. Et il m'a aidé avec Jeannine Bazin, sa femme, à faire des enveloppes et une petite invitation pour un certain nombre de gens qu'il connaissait, que moi je ne connaissais pas. Et alors, en première partie de La Pointe Courte, on montrerait un moyen-métrage de Marco. Marco et moi, nous avons été porter les enveloppes dans les quelques hôtels qui accueillait les festivaliers et les critiques. En 55, c'était un festival assez peu couru. Il y avait assez peu de films en compétition. Il n'y avait pas de section parallèle. Et on trouvait très facilement de la place pour faire une projection privée rue d'Antibes au Vox. C'est ma maman qui a donné 100 francs aux projectionnistes et on a montré La Pointe Courte. Quelques professionnels sont venus, ils me l'ont dit après. Moi, je ne connaissais absolument personne. La suite, c'est 7 ans plus tard. Cléo de 5 à 7, tournée en 1961, a été sélectionnée. Je ne sais pas pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce. Et nous voilà, Corinne Marchand, l'actrice qui jouait Cléo, et moi-même, invitée au Festival de Cannes, les 3 jours officiels dans un bel hôtel et tout ça. Et on ne connaissait personne, et elle non plus. J'ai un souvenir très drôle, elle était habillée vraiment à l'américaine, avec des trucs comme ça, de starlet, des petits trucs en voile qui pendaient de ses épaules. Et elle m'a présenté son agent. Elle m'a dit, j'ai un agent très gentil mais très timide, il s'appelle Gérard Lebovici, il ne connaît personne. Est-ce que tu peux lui présenter les gens du cinéma? J'ai dit, mais moi je ne les connais pas non plus, je suis bien embêtée. Quelques années plus tard, Gérard Lebovici était devenu le grand patron de la plus grande agence française et il était, on peut dire, une sorte de roi du cinéma. Bon, Cléo de 5 à 7 a beaucoup plu, je crois, aux gens qui l'ont vu.
Vous vous souvenez de votre montée des marches pour Cléo de 5 à 7? C'est quelque chose qui marque une première fois à Cannes?
Je ne me souviens pas, non, des marches. Il me semble que la costumière du TNP, Aliette Samazeuil, m'avait fabriqué une robe qui était un peu une robe de cirque, comme ça, assez courte, avec des paillettes en bas et une petite cape. J'avais l'impression qu'il fallait que j'enlève la cape et monter sur le trapèze. Non, j'ai pas de souvenir. Sinon que, à cette époque-là, on montait sur scène à la fin du film. Corinne Marchand a été annoncée, elle est montée, et Léon Zitrone m'a appelé en disant Agnès Varga. Voilà, je me suis sentie comme une girl d'une sorte de casino. On n'a eu aucun prix pour Cléo de 5 à 7, mais le film a fait le tour du monde grâce au festival quand même.
C'est important alors d'avoir un film présenté à Cannes. Pourquoi? Parce qu'il est montré à des étrangers qui sinon ne le verraient
pas.
C'est
une vitrine extraordinaire. Parce qu'il y a toujours eu des gens du monde entier pour venir à Cannes. Alors maintenant, attendez, 40 ans après, c'est la cohue. Hein, ils viennent du monde entier. On a l'impression qu'ils viennent de après le bout du monde. Maintenant, c'est vraiment une énorme foire. C'est un énorme marché. En plus d'un festival prestigieux pour des films prestigieux. Non, 62, c'était encore très discret. Alors, nous sommes revenus, Jacques Demy et moi, mais c'était lui qui était invité, pour Les Parapluies de Cherbourg, qui était sorti début de 63. Et d'ailleurs, Cléo aussi était sorti. À l'époque, on pouvait parfaitement être sélectionné en n'étant pas inédit. Les Parapluies de Cherbourg avaient déjà du succès quand il a été sélectionné pour le Festival de Cannes.
Il avait déjà eu le prix Louis Deluc, non?
Mais oui, monsieur, vous en savez des choses. Absolument, et il a quand même été sélectionné, et il a été très aimé, je crois. Il y a eu quand même, si j'ai bonne mémoire, de la bagarre, hein, parce qu'il y avait plusieurs films dont on parlait beaucoup, La Femme du Sable, La Peau Douce, mais nous, pour nous, c'était très extraordinaire, parce que Jacques ne pensait pas du tout obtenir quoi que ce soit. Il y avait un critique de Paris Presse, Michel Aubryant, qui avait parié que j'accueillerais la Palme. Il avait parié une caisse de champagne, ou une caisse de, je sais pas quoi, une caisse de boisson, en tout cas. Et bon, Jacques avait dit, bon, très bien. Et nous, on était partis, on avait quitté le Festival de Cannes, on avait été voir ma mère qui avait un appartement au Cap-Martin. Donc, on prenait quelques jours de vacances avant de rentrer à Paris. Et puis, on nous a rattrapés, on a rattrapé Jacques en téléphonant à Paris, on a su où il était, etc. On lui a dit, revenez vite, vous avez la Palme d'Or. Et alors là, il y avait le problème costume qui se posait. Moi, j'avais une petite robe noire discrète, lui, il avait rien. Donc, avant de quitter l'appartement de maman, elle m'a dit, écoute, je te prête un beau bijou, mets-le sur ta robe et tu vas le coudre. Parce que dans les fêtes, comme ça, il y a toujours des hommes qui lancent leurs mains entre les seins des femmes et arrachent leurs bijoux. Alors, tu le couds sur la robe, comme ça, tu es tranquille. Oui, maman, merci, maman. On arrive à Cannes, Jacques loue un smoking et on va à la soirée. Michel Legrand et Christine Legrand étaient venus aussi, Catherine Deneuve, vous pensez, et c'était vraiment une extraordinaire récompense pour ce film, qu'il méritait, qui est un film quand même, qui est toujours un film rare, extraordinaire. On arrive à Cannes, on va vite chercher la caisse d'alcool qu'on avait promis à Michel Aubryant, la soirée se passe, il y a agitation, fête, et puis on rentre à l'hôtel, il me semble le Grand Hôtel, on se couche, on devait repartir à Paris, donc dès le lendemain matin de cette fête des parapluies de Cherbourg, on prend la voiture, on file, Jacques conduisait très vite, et à Aix-en-Provence, je lui dis, j'ai laissé la robe dans l'armoire de l'hôtel.
Avec le bijou cousu dessus.
Voilà. Alors, précaution de maman, panique à bord, et là, le dilemme ne se pose. Est-ce qu'il faut téléphoner à l'hôtel en disant, on a laissé une robe avec un bijou dans l'armoire, ils pourront toujours dire, ben non, il n'y est plus, ou le bijou, il n'y en a pas, ou bien, on y va, on dit rien. Alors, bon, on y va, on dit rien. Ils refoncent de Aix à Cannes. Les femmes de chambre n'étaient pas encore montées. La robe était dans l'armoire. Ouf. Je l'ai reprise, j'ai décousu, je l'ai rapportée. Je l'ai rendue à maman qui était venue. Enfin, bon, bref.
Mais il faut dire que cette année 1964 est importante aussi dans le Festival de Cannes, puisque c'est la première fois qu'un président de jury est un homme du cinéma. Ce n'est plus un académicien. C'est Fritz Lang. C'est-à-dire que c'est Fritz Lang qui choisit de donner le prix au parapluie de Cherbourg. C'est quand même important.
C'est pas le président tout seul qui choisit. Je peux simplement le savoir, j'ai jamais été jury. Mais Jacques a été jury en 1977, dans un jury présidé par Roberto Rossellini, peu avant sa mort d'ailleurs. Et j'ai été quelques fois avec eux, mais j'étais pas évidemment dans les débats ni les discussions. Mais je vois qu'ils parlaient tous, ils avaient vraiment leur mot à dire, leurs opinions variées, contradictoires. Et même entre des gens qui s'entendaient bien... La voix du président était prépondérante. Je crois qu'il y avait peut-être deux voix en cas d'égalité, mais ils avaient tous leur petit mot à dire, oui.
On fait peut-être un saut en avant, mais vous savez comment Jacques Demy avait vécu cette expérience de membre du jury du festival ?
Très flatté, très content, et pourquoi pas. C'était déjà, à cette époque, Gilles Jacob, le délégué général. Ben, je ne sais pas, oui.
Il était délégué général adjoint, je crois, encore, puisque c'est l'année d'après qu'il deviendra délégué général à part entière, mais enfin, il était dans l'équipe du festival, oui.
Oui, c'était Favre-Lebret. Mon Dieu, oui, ne parlez pas de ça, parce qu'il y avait eu des pressions terribles. Il convoquait les jurés les uns après les autres pour leur dire à qui il fallait donner la palme.
Il paraît que Favre-Lebret voulait donner la palme, oui. Voilà, et Torrescola, et finalement, ce n'est pas lui qui l'a eu, qui avait fait toute une histoire.
Una giornata particolare, c'était
oui,
ça.
Une journée particulière.
Oui, et il disait ça, il les convoquait, hein. Et tous, ils étaient fous de rage. Toutes les réunions du jury ont lieu en présence de quelqu'un du festival. Sauf si le président convoque dans sa chambre. Alors Rossellini n'arrêtait pas de les convoquer dans sa chambre pour qu'ils puissent parler, loin de toute oreille. Enfin, j'ai fait un bond en 77, c'est vrai.
Oui, on était en 1964 oui. Avec les parapluies de Cherbourg.
C'est bien. Alors,
et c'est ça qui a amené Jacques Demy à la Columbia, je crois, d'avoir présenté son film à Cannes.
Oui, mais après le festival de Cannes, le succès du film en France et le succès du film aux États-Unis, Les Parapluies de Cherbourg a été nominé, comme ils disent, aux Oscars. Il a été nominé aux Oscars quand même. Il l'a pas eu, mais il a été présenté comme un des meilleurs films étrangers. Et à la suite de quoi, effectivement, Jacques a été invité à faire un film à Los Angeles pour la Columbia. Et c'est ce qu'il a fait, Model Shop à Los Angeles, qui est Anouk Aimée toujours, Lola, mais cette fois Lola à L.A., qui pose comme ça pour des petites photos dans un pauvre truc. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a envie ? C'est se payer un billet de retour pour rentrer à Nantes. Je crois que c'était aussi le désir de Jacques. Oui, le film a fait le tour du monde, mais la musique des parapluies a fait le tour du monde. C'est quand même inoubliable. Nous aurons des enfants, tout ça.
On l'écoute, Agnès ?
Ah oui, oui.
Nous aurons des enfants.
J'appellerai ma fille Françoise.
Et si c'est un garçon?
Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Une heure, si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas?
Non, tu es très jolie comme ça.
Un peu ici.
Où ça?
Là. Nous vendrons des parapluies. Et puis non, pas des parapluies. Nous vendrons le magasin.
Nous achèterons une station-service.
Pourquoi? Quelle idée?
Toute blanche, avec un bureau. Tu verras.
Tu sentiras l'essence toute la journée. Quel bonheur!
Nous serons très heureux.
Et nous resterons amoureux.
Agnès Varda, on va peut-être faire un petit intermède, un intermezzo. Nous allons écouter à nouveau l'abécédaire de Dino Risi.
Petit abécédaire du cinéma, mardi, de D.A.F. Dialogue. Parce qu'il ne savait pas écrire un dialogue, Antonioni est devenu le poète de l'incommunicabilité. Doublage. Un acteur est quelqu'un qui dit les mots des autres. En Italie, c'est quelqu'un qui dit les mots des autres avec la voix d'un autre. Cette bouée de sauvetage s'appelle doublage. E. Extérieur. Lieu en général agréable et éloigné de la maison où l'acteur tombe amoureux de l'actrice, la script de l'acteur, l'actrice du chef machiniste et le décorateur d'un garçon du coin. F. Festival. Présentation de films inventés par les journalistes pour passer 2 semaines à l'œil dans un grand hôtel. Feuilleton télé, produit de consommation pour ménagères frustrées. Figurant extra, un pauvre avec une gueule de riche. Film beau, tout film avant qu'il ne soit commencé. Film mauvais, tout film à peine fini.
Nous arrivons à Agnès Varda en 1981, où dans la section nouvellement créée, Un certain regard, on voit Murmure.
Oui, documentaire que j'avais tourné à Los Angeles en 1980 sur les peintures murales. Et j'avais tourné d'ailleurs 2 films, Murmure et Documentaire. Les documentaires n'étaient jamais en compétition et la section Un certain regard était le parfait écrin pour ce film qui, grâce à ça aussi, a été énormément connu, a beaucoup circulé dans d'autres festivals. Et l'année d'après, j'ai encore une fois été invitée dans Un certain regard pour un court-métrage qui s'appelle Ulysse, qui avait gagné, ou qui a gagné après, je ne me rappelle pas, un César, donc qui avait été invité. J'étais très contente. J'ai un souvenir quand même qu'il passait en première partie d'un film de Chantal Akerman. Je ne sais pas si c'était Toute une nuit. Mais il y avait une telle cohue que moi, je me suis évanouie dans la foule, en tout cas. Je me souviens de ça, d'essayer de rentrer dans la projection et de m'évanouir. Alors après, on m'a ramenée. Je me suis retrouvée, je ne sais pas où, à l'hôtel, je crois. Donc, je n'ai pas trop su comment ça s'était passé pour Ulysse. Et puis, les années passent. Jacques aimait beaucoup venir au Festival de Cannes.
Vous veniez, y compris quand il y avait, entre guillemets, pas de raison de venir, c'est-à-dire uniquement pour voir des films.
Non, une raison, c'était voir les films et voir les amis étrangers. Ils viennent tous à Cannes, les Japonais, les Américains, des gens qu'on a connus en Islande, en Finlande, au Mexique, etc. C'est là qu'on les retrouve, brièvement, mais on les retrouve et c'est très amusant. Même très malade, Jacques est venu en 90 au Festival de Cannes à l'invitation de Jean-François Davy parce qu'il y avait une série de VHS qui s'appelait Les Palmes d'Or. Et donc, comme les parapluies étaient inclus dans cette série, il était venu, on va dire faire la promotion, mais rappeler aux gens qui étaient là qu'il avait fait Les Parapluies de Cherbourg. Il était très content. Et l'année d'après, puisqu'entre-temps j'avais tourné Jacques de Nantes, sur un scénario, une idée de Jacques, qui racontait son enfance, j'avais tourné l'enfance de Jacques Demy à Nantes, sa vocation de jeune cinéaste, son désir extraordinaire d'aller dans une école de cinéma alors que son père lui faisait apprendre à taper sur des chaudrons. et à devenir mécanicien. Jacques est malheureusement mort à la fin de 90, quand le film était presque fini de monter, mais pas tout à fait terminé, mixé. Et Gilles Jacob, et il me semble que c'est Jean de Baroncelli aussi, ont invité Jacques Houdenante au festival en 1991, en sélection officielle. Et moi, j'ai demandé qu'il ne soit pas en compétition. Et des années après, je le regrette.
Pourquoi ?
Parce que ma pudeur envers Jacques n'avait pas beaucoup de sens. Je pense que c'est un vrai film. Seulement là, il était tellement chargé pour moi d'émotions. Et d'ailleurs, le Festival de Cannes avait fait une chose très jolie. À ma demande, Gilles Jacob l'avait programmé à 17h pour que ce ne soit pas tellement dans le flonflon, robe et tout ça. Et je ne sais pas si c'est son idée ou celle de Dominique Segal ou qui, mais au lieu de mettre des gardes républicains là, qui sont toujours le long des escaliers, ils avaient mis des marins à pompons et ils ont joué la musique des Parapluies de Cherbourg pendant que nous montions les escaliers. Je dis nous, c'était que j'étais accompagnée de Mathieu et Rosalie, mes enfants, parce que pour nous, c'était quand même une épreuve, hein, il faut dire ce qui est. Il y a eu d'abord un hommage sur scène à Jacques, avec une énorme photo de lui, souriant, très beau. Et cet hommage sur scène était donc performé par les acteurs qui avaient joué dans ces films. Et j'avais choisi pour chacun d'eux un texte qu'il disait dans un film de Jacques. Donc Dominique Sanda lisait un texte d'une chambre en ville. Jean-Claude Brialy faisait le présentateur de la soirée. Perrin a lu quelque chose d'Edmoiselle Rochefort. Daniel Delorme, un texte de Colette de La naissance du jour. Catherine Deneuve n'avait pas pu venir, s'était excusée et tout le monde l'a regretté. Mais enfin, actrices et acteurs ont été très sympathiques, très généreux. Et Michel Legrand a chanté a cappella sur l'air des Parapluies de Cherbourg, un petit mot gentil pour Jacques. Alors évidemment, ce hommage à Jacques précédant la projection, moi j'étais déjà assez pantelante. Et la projection de Jacques Houdenante s'est passée très très bien, dans un silence extraordinaire, une émotion formidable. Et il y a eu quelque chose que j'ai vu et je pense qui est rare. Il y a eu, à la fin du film, il y a eu une ovation extraordinairement longue. C'est pas tellement à l'applaudimètre en durée, où déjà c'était un cas exceptionnel, mais en qualité de son. Les gens applaudissaient un peu au ralenti et mou. Il y avait quelque chose de gentil, d'attendri. C'était pas l'applaudissement excessivement enthousiaste. C'était une sorte d'applaudissement pour accompagner Jacques, je ne sais pas. J'ai une incroyable impression d'une chose interminable dans une sorte demi-son, demi-rêve, long, long, long. Jacques Lang, qui était le ministre de la Culture, était assis à côté de moi. Et quand la lumière s'est rallumée, après ce long temps d'applaudissements, je dois dire que j'étais en larmes. Et évidemment, les photographes se sont précipités à photographier Jacques Lang, et la veuve est pleurée. J'étais folle de rage. Mais enfin, bon, c'était comme ça. C'était une très belle fin d'après-midi, très émouvante, très extraordinaire. Et le film a circulé beaucoup dans le monde, a été invité dans beaucoup de festivals, évidemment.
Et puis en 1993, il y a eu Les Demoiselles ont eu 25 ans.
Oui, dans un certain regard. C'était encore un film autour de Jacques, ou pour Jacques. C'était la ville de Rochefort qui avait fêté les 25 ans de la sortie des Demoiselles Rochefort, qui avait fait une fête. Et Catherine Deneuve, Michel Legrand et moi, tout ça, on est allés là-bas, on a été invités. Et entre-temps, j'avais retrouvé du 16 mm couleur que j'avais tourné en 66 à Rochefort.
Du pont transbordeur à la place Colbert, la ville de Rochefort se souvient du film que Jacques Demy a tourné en 1966, Les Demoiselles de Rochefort. D'ailleurs, les touristes demandent la place des Demoiselles, et en général, on leur répond en chantant la chanson la plus connue du film, mise en musique par Michel Legrand.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do, toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
25 ans après la sortie du film,
la ville de Rochefort a voulu faire la fête. Un petit avion d'opérette amena les invités qui avaient à voir avec le film, dont moi par alliance. L'invité vedette était évidemment la demoiselle d'honneur. On avait choisi le 5 juin en souvenir de Jacques Demy, né ce jour-là, 61 ans plus tôt. La beauté de ce film, c'est certainement de voir Catherine Deneuve, d'Orléac et Jacques Demy dans un bonheur de faire ce film, dans la beauté de leur jeunesse, il faut dire, mais dans une grâce et une incroyable adhésion à cette comédie musicale qui voulait rendre des gens heureux. Eh bien, le film a beaucoup plu et c'est un très bel hommage au bonheur d'être cinéaste.
Même accueil que pour Jacques de Nantes ?
Ah, très différent, parce que l'émotion est au rendez-vous, mais d'une façon beaucoup plus légère. Ce que j'ai souvent dit, c'est que le souvenir du bonheur, c'est peut-être encore du bonheur. Oui, c'était en demi-teinte. Et Catherine Deneuve, venue à Rochefort, avait dit ce très joli mot, puisqu'elle-même souffrait de l'absence de Françoise, quand moi je souffrais de l'absence de Jacques, elle avait dit, ils ont fait une fête, je ne me laisserai pas gagner par l'émotion. Et j'ai trouvé ça bien. Ça avait de l'élégance, comme elle a toujours. Au fond, c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'esprit de compétition et j'ai jamais vraiment souhaité être en compétition, au fond. Et quand j'ai de nouveau été invitée à Cannes, par Gilles Jacob, encore délégué général, en l'an 2000.
Sa dernière année comme délégué général.
Voilà. Il a osé prendre en sélection officielle un documentaire, Les glaneurs et la glaneuse. Il n'a pas été jusqu'à oser le mettre en compétition, ce qu'il a fait l'année suivante avec le Michael Moore, Bowling for Columbine. Mais là, nous étions en sélection, pas en compétition. Et c'était bien. Moi, ça m'a plu que ce film soit là. Là aussi, ça a été l'occasion de, peut-être pour le film, d'être vu par des gens du monde entier. Et c'est peut-être celui de mes films qui a fait le plus de festivals. Le glaneur et la glaneuse a dû faire, je sais pas, 70 festivals après Cannes. Festivals de toutes sortes, hein. Festival de cinéma, festival de documentaire, festival de films de femmes, festival des droits de l'homme, festival de, je sais pas quoi, toutes sortes de choses qui peuvent exister et qui montrent des films.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que Cannes, qui vous aime beaucoup, qui vous sélectionne beaucoup, finalement, c'est quand même le festival, comme vous l'avez dit, qui ne vous a jamais récompensé. Vous avez eu un Lion d'or à Venise, vous avez été récompensé un peu partout.
Un partout.
Là, mais pas, jamais à Cannes.
Vous avez une petite armoire là où nous avons
rassemblé. On voit une palme d'or, mais c'est celle des parapluies de Cherbourg.
Pour Cannes, il n'y a que Jacques Palme d'or. Moi, je n'ai jamais été primée à Cannes. Alors peut-être que j'y ai pensé, justement, si Jacques de Nantes ou les glaneurs avaient été en compétition, seraient ramassés peut-être un petit prix secondaire, un petit quelque chose. C'est pas très grave. Effectivement, je n'en souffre pas, mais je suppose que quand on a un prix à Cannes, c'est utile. En termes de carrière, c'est très utile.
Il y a aussi un décalage qui peut être parfois étonnant à Cannes. C'est quand même le festival où on vient en smoking et en robe de soirée voir un film sur, par exemple, sur des laissés pour compte qui ramassent des légumes au marché. Ce décalage.
Justement. Ce type de film n'est pas présenté en soirée avec smoking et comme ça. Ça ne va pas. C'est anormal, si j'ose dire. Il a été aussi présenté à, je ne sais pas, 17h ou un truc comme ça. Ah oui, il faut savoir ce qu'on montre et comment on est. Moi, ça ne m'empêche pas d'essayer de me babiller à peu près correctement pour aller à Cannes. Encore que l'autre fois, je n'avais pas de sac assorti à ma robe noire et mon foulard un peu doré. Alors, j'ai pris un petit sac en plastique. Au fond, il y a des magasins qui ont des petits sacs en plastique noir et avec des petits points dorés. Et ça a été mon sac du soir. Je m'en fiche un peu de tout ça. Mais enfin, je fais un petit effort quand même. On ne peut pas vraiment faire exprès d'être en savate et en dégoûtant pour dire qu'on n'est pas tout à fait dans le jeu. Mais même quand j'étais jeune, hein, je n'ai jamais été tellement dans la paillette.
Malgré tout, quand vous avez eu Cléo de 5 à 7 sélectionné à Cannes avec Jacques Demy, vous alliez au casino, puisque c'est ça qui lui a donné l'idée d'un film.
Vous le savez, ça, c'est effectivement vrai. Mac Baudard, la productrice qui désirait faire les parapluies de Cherbourg, n'avait pas trouvé l'argent. Donc en 62, elle était toujours en train de le chercher. Et elle a dit à Jacques, mais vous connaissez Jacques, vous ne connaissez pas le casino. Et on est invité au casino de Cannes avec Mac Baudard. C'est absolument vrai. Jacques est rentré, il a misé je ne sais pas combien, sur le 17. La roue tourne, rien ne va plus, tac, le 17 sort en 35 fois la mise. Alors Jacques était impressionné, il s'est mis à trembler, et il a eu peur. Et il a écrit La Baie des Anges, qu'il a tourné l'année d'après, toujours en attendant de trouver le financement des parapluies de Cherbourg. C'est drôle, hein. Et il a senti quelque chose, la possibilité d'une sorte de débauche. Il avait très peur de ça, parce qu'il était quand même très puritain, très sage dans sa... la façon dont il avait été éduqué. C'est drôle. Mais enfin, on a énormément de souvenirs à Cannes. Moi, je me vois aussi, enceinte de Mathieu, on allait sur la plage. entre deux films. Si vous voulez, c'était un peu comme chaque année, une incursion dans le monde des autres films, des autres pays, des réalisateurs d'autres pays qui venaient à Cannes et qu'on retrouvait là. On allait faire le petit tour à Cannes. Alors, quelquefois, Jacques disait, il faudrait peut-être qu'on essaye de trouver des producteurs, il faudrait peut-être qu'on aille faire la pute un petit peu au bar du Galton. Mais on ne savait pas bien le faire. On n'a jamais trouvé d'argent à Cannes, on n'a jamais trouvé de mécènes ou de producteurs qui tout d'un coup vous disent ce que vous voulez, quand vous voulez. Ce n'est pas pour moi, ce n'était pas pour Jacques, et ça continue sans doute, ce n'est pas maintenant que ça va changer.
Donc ça reste finalement plus un lieu de plaisir que de travail, Cannes.
Oui, une sorte de foire. Je le vois comme une foire pour les paysans, la foire annuelle où on voit ceux qui vendent des bestiaux, ceux qui n'en vendent pas, et puis les copains, et on boit des coups et tout ça. Ça, c'est assez agréable. Moi, j'aime bien Cannes, vraiment. Alors, j'ai eu de grandes émotions de cinéma, hein, quand même. Des grandes émotions, des films qu'on a découverts à Cannes. Alors, je ne sais pas s'il faut les nommer ou... Ah, des Fellini extraordinaires et des films... Par exemple, l'effet Café Paris-Texas, je me souviens, avec cette musique de Roy Cooder, si formidable.
Merci Agnès Varda, on vous retrouve demain pour la suite de cette série sur le Festival de Cannes. Demain, nous sommes mercredi et vous arrivez à Cannes pour de bon.
J'y vais.
À demain Agnès.
À demain.
Réalisation Doria Zénine, Marie-Christine Closet, Philippe Baudouin. Coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Agnès Varda en 2003.